7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, Olivier Poujat, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
On part ce soir en Suisse pour s'intéresser à un autre système politique.
Système qui se veut plus participatif, Nicolas, plus représentatif, plus proche des attentes de la population. Tous les trois mois, les citoyens suisses sont appelés aux urnes pour se prononcer sur des questions locales ou nationales. C'est ce que l'on appelle la démocratie directe. Cette mécanique est-elle plus juste, plus équitable, plus modérée? Nous allons décortiquer tout cela avec vous, Delphine et Nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes de retour donc de reportage à Berne. Alors déjà, en quelques mots, comment fonctionne concrètement ce système suisse?
Eh bien, on est dans un système fédéral, c'est-à-dire qu'on délègue au maximum les compétences au plus bas échelon possible, à la commune ou aux 26 cantons. Système aussi de démocratie directe. Les citoyens ont leur mot à dire sur les lois. Ils sont obligatoirement sollicités quand il s'agit de toucher à la Constitution. Et ils peuvent, eux, réclamer qu'une loi fédérale soit modifiée. Pour ça, il faut récolter 50 000 signatures. Ce sont des référendums. Et puis, il y a l'initiative populaire, la fameuse. Cela signifie qu'un groupe de citoyens peut exiger du Parlement qu'il examine une proposition de loi émanant du peuple, des citoyens qui partent en campagne pour recueillir au moins 100 000 signatures.
Ce qui veut dire que chaque décision revient donc au plus grand nombre. Ce sont les citoyens qui tranchent.
Alors, on va dire qu'ils co-décident. Mais ce qui est sûr, c'est que les élus ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si leur copie ne remporte pas une franche adhésion, c'est retour à l'envoyeur. Résultat, un large consensus sur les textes, pas de fronde contre les représentants politiques et très peu de manifestations. Et cela fait 120 ans que ça dure. Mais depuis une quinzaine d'années, la donne évolue. Car à la base, comme son nom le laisse entendre, l'initiative populaire est un outil pour le peuple qui doit être capable de proposer une loi s'il estime qu'il n'est pas assez bien représenté. Mais les partis politiques s'en sont emparés pour gagner des électeurs.
Et comment s'accapare-t-on un tel outil, Delphine, en injectant, bien sûr, une bonne dose de populisme dans son discours politique?
C'est ce qui a l'air de marcher, du populisme de droite en l'occurrence, puisque l'extrême gauche n'existe pas ou à peine en Suisse. Parlons donc de l'UDC, l'Union démocratique du centre, premier parti du pays, environ 30% des suffrages. Une cote de popularité qui grimpe en même temps que grimpe le nombre d'initiatives populaires. Et cela agace l'essayiste suisse François.
Quand l'UDC démarre, qu'elle est reprise au fond par Christophe Blocher, le leader populiste suisse, c'est un tout petit parti en déshérence, de tendance un peu agricole. Et au fond, ce parti, ses dirigeants ont utilisé l'instrument de démocratie directe comme un instrument de marketing systématique avec une grande habileté, et ils se sont construits une notoriété et des résultats grâce à l'instrument de démocratie directe. Clairement, si cet instrument ne pouvait pas s'exercer aussi facilement, leur succès n'aurait pas été aussi considérable.
Exemple, la votation pour interdire la construction des minarets en 2009, approuvée. La votation contre l'immigration de masse en 2014, approuvée. La préférence indigène à l'embauche dans le canton italophone du Tessin l'an dernier, là aussi approuvée. Il y a une sorte de surenchère.
Oui, et comment on explique justement cette surenchère?
Eh bien, l'UDC y trouve le moyen d'exister grâce à une sorte de slalom électoral, en étant à la fois au pouvoir et dans l'opposition. Une subtilité que nous explique Pascal Sciarini, professeur de sciences politiques à l'Université de Genève.
L'UDC se sert de la démocratie directe parce qu'au Parlement, elle n'est pas majoritaire. Et dans le système suisse, il faut avoir une coalition de partis pour obtenir une majorité. Et comme elle n'y arrive pas, elle est souvent tentée, effectivement, de passer devant le peuple directement. Donc d'outrepasser, en quelque sorte, le Parlement, de lancer des initiatives pour essayer d'obtenir un soutien directement de la part du peuple. On peut ajouter en plus que l'UDC se sert des initiatives pas seulement pour changer des politiques, mais elle s'en sert aussi à des fins électorales ou électoralistes, c'est-à-dire qu'elle lance des initiatives une année avant les élections nationales de façon à occuper le terrain, à dicter l'agenda politique, à mobiliser ses militants et à montrer aux électeurs qu'elle se préoccupe de ses thèmes de prédilection.
Mais pour Pascal Sciarini, le fait que les Suisses soient aussi souvent appelés à voter, cela crée aussi une sagesse populaire, une compétence politique supérieure aux autres pays et qui amène à être raisonnable. Et c'est vrai qu'en février dernier, les Suisses ont approuvé par référendum et à une large majorité la simplification de la procédure de naturalisation des petits-enfants d'immigrés, alors que l'extrême droite avait pourtant multiplié les propos anti-musulmans.
Alors si on résume bien, Delphine, l'UDC, premier parti de Suisse, mène une sorte de campagne électorale permanente pour séduire et convaincre, ce qui laisse très peu de place au final aux autres pour exister. Quoi.
Oui, surtout ceux qui se situent au centre de l'échiquier politique en Suisse. Pour faire simple, vous avez l'UDC à droite, le Parti Socialiste à gauche, et au milieu, les chrétiens-démocrates et les libéraux radicaux qui jouent en quelque sorte le rôle d'arbitre. Et ce n'est plus si facile de le faire, explique Fatih Derder, conseiller national, c'est l'équivalent de député, pour le Parti Libéral Radical.
On essaye d'appeler un peu tout le monde au calme. C'est compliqué parce qu'on a un durcissement du dialogue politique suisse entre deux pôles qui deviennent de plus en plus durs. On a beaucoup de peine à maintenir ce dialogue qui est le fondement même de la démocratie directe et de notre stabilité politique, qui est un des garants principaux de notre croissance économique. Ce qui fait l'attractivité et la force de la Suisse, c'est vraiment cette stabilité. Et malheureusement, la stabilité dépend de la démocratie directe. Mais le durcissement du discours politique, qui vraiment porte des coups assez durs à la démocratie directe et donc à la stabilité, porte atteinte également à la croissance et à tout le climat qui fait que la Suisse aujourd'hui est un pays dans lequel il fait bon vivre. Et malheureusement, je crains qu'on y porte atteinte de manière assez dure aujourd'hui.
Et exemple, la votation contre l'immigration de masse de février 2014, qui fixe des quotas, un peu l'équivalent du Brexit pour les Suisses en termes de séisme politique. Elle a imposé cette votation selon un haut fonctionnaire du département suisse des affaires étrangères, une sorte de purgatoire de la part de l'Union européenne. Plusieurs négociations sur des accords bilatéraux comme Erasmus ont été gelées. De quoi faire réfléchir. Mais est-ce l'exemple de cette sagesse populaire dont on a parlé? 10 mois plus tard, une nouvelle initiative anti-immigration a cette fois été rejetée très massivement.
Delphine Evenou qui est allée donc sonder pour nous le mécanisme de démocratie directe de nos voisins suisses. Merci à vous, Delphine.
Et l'histoire maintenant, Olivier, d'un patrimoine qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur aux États-Unis.
Et qui a finalement trouvé refuge en Allemagne, Nicolas. L'histoire d'un tas de vieilles planches de bois et d'un numéro de rue, le 2672. L'adresse de la couturière noire américaine Rosa Parks, qui avait refusé de céder sa place à un blanc dans un bus en 1955. Rosa Parks, devenue ensuite le symbole de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Sa maison, en banlieue nord de Détroit, avait été condamnée à la démolition. Elle vient d'être rebâtie pièce par pièce à Berlin par un artiste new-yorkais. Ryan Mendoza explique à la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle ce qui l'a poussé à se lancer dans un tel projet.
Le fait qu'en Amérique, cette maison n'avait aucune importance, le fait que les institutions puissent permettre qu'elle soit inscrite sur la liste des démolitions, le fait qu'ils puissent la vendre pour $500, le fait que le gouvernement américain puisse penser que cette maison ne valait pas plus de $500, tout cela est bien la preuve d'une énorme négligence.
C'est donc Rhea McCauley, la nièce de Rosa Parks, qui a finalement pu racheter la maison pour $500. Donc, mais aucune fondation, aucune personnalité, y compris l'ancienne première dame Michelle Obama, n'ont accepté de l'aider pour financer la restauration du lieu, comme si la mémoire n'avait aucune importance aux États-Unis. C'est pour cette raison précisément que l'artiste Ryan Mendoza a choisi de la transférer à Berlin.
C'est quelque chose que les Allemands ont fait. Ils ont affronté leur passé. Et c'est quelque chose que les Américains n'aiment pas faire. Nous n'aimons pas reconnaître nos erreurs. Nos leaders préfèrent que l'on se prosterne devant le drapeau. Comme si le patriotisme était la seule chose importante.
Une partie de la mémoire de Rosa Parks est donc aujourd'hui saine et sauve en Allemagne. Nicolas, sa maison reconstruite à l'identique sera d'ailleurs visible à l'occasion du festival d'art berlinois Gallery Weekend à la fin de ce mois.
Whites in front, blacks behind. If the bus filled up, we had to give up our seats or we'd be fine.
That's ludicrous.
I made a stand in my hometown, Montgomery, Alabama.
That's dangerous.
Refused to stand for a white man, so they put me in the slammer.
Discourteous.
December 5, 1955, my trial notorious. Black people stood side by side and no one
got on the bus.
We stayed off the bus.
They stayed off the bus.
We stayed off the bus.
PECT enforce new legislation. Dream of the day the USA had no implementation of SEGREGATIOA.
Spell segregation.
From that day on, we walked or cab led by Martin Luther King. Attacked by mobs, our houses bombed, though peace was our thing. Our plot, it made the national news, which was mighty strange.
Voilà le morceau Rosa Parks Equality Song tiré d'un programme de la chaîne britannique BBC One.